Ouvrez sans plus tarder votre Bible, si vous en avez une, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 12. Romains, chapitre 12, verset 12. Ce sera le verset que nous utiliserons pour tout ce message, tout ce partage. Nous allons l'étudier, le décortiquer un petit peu, et j'espère en tirer de grandes bénédictions et de grands conseils. Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. On le relit. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Amen. Trois conseils qui viennent de l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord avec moi? Trois conseils, c'est des conseils qu'il nous donne. Celui qui prend en considération ces conseils-là, eh bien, sera béni de Dieu. Comme lorsqu'on prend en considération chaque parole inspirée de Dieu, transmise par un homme de son choix. Là, c'est le cas de l'apôtre Paul. Il va dire trois choses importantes pour nous ce matin. Nous allons commencer par les étudier une à une. Et puis, nous verrons trois leçons que nous pouvons tirer aussi de ces choses mises ensemble, de cet ensemble de conseils. Premièrement, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un chrétien a le droit de se réjouir? Oui? Parce que des fois, on a des moments très très solennels, très très sérieux, et des gens pourraient croire qu'être chrétien, c'est être triste. C'est pas vrai? Alors que c'est pas du tout ça. Il y a une grande joie dans notre cœur. J'espère que lorsque vous avez élevé votre voix ou lorsque vous avez entendu vos frères et sœurs prier, louer, eh bien vous avez de la joie à le faire dans votre cœur, de la joie à l'entendre, et qu'il y ait vraiment une grande joie qui naisse et qui demeure dans notre cœur. Une petite anecdote que j'ai déjà racontée il y a un moment, celle de l'âne, l'anecdote de l'âne et du petit garçon. Un jour, un petit garçon était chez sa grand-mère un dimanche matin, et sa grand-mère était très très croyante, très très religieuse. Sa grand-mère, voyant le petit garçon s'amuser, lui, il veut passer le temps, elle le voit en train de jouer, de s'exciter un petit peu et de faire du bruit. Elle lui dit « Ne joue pas, c'est le jour du Seigneur !» Alors il se dit « Je vais chanter !» Il commence à chantonner « Ne chante pas, c'est le jour du Seigneur !» etc. Puis fatigué, il va dehors et il dit « Je vais être plus tranquille dehors !» Et il reste marqué par ce que sa grand-mère lui a dit. Et il voit là un lapin dans le jardin de sa grand-mère qui commence à sauter à droite à gauche, tout joyeux. Et il se tourne vers le lapin et il dit « Ne saute pas, c'est le jour du Seigneur !» Et il se marche un petit peu, il entend les oiseaux chanter, tout cela, et dit « Ne chantez pas, c'est le jour du Seigneur !» Puis il avance un petit peu et il rencontre un âne fatigué, un âne épuisé, un âne vieux qui a plus de force, etc., et qui tire une tête, comme on dit, hein. Et il dit, ah, toi, je t'aime bien, t'as tout compris. T'as la même religion que ma grand-mère. C'est pas ça. On a le droit de se réjouir dans le Seigneur. Et même si, quelquefois, on se retient dans notre expression par correction pour ne pas, eh bien, être un scandale à quelqu'un ou blesser ou bien, être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, dans notre cœur à l'intérieur, il y a une grande joie. Et on a le droit aussi de le manifester, de le dire. Et si Dieu nous le permet par rapport à l'heure, j'aimerais terminer avec ce chant qui dit « Réjouissez-vous toujours ». C'est un verset que nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens 4, 4. Si on n'a pas le droit de se réjouir, alors je ne sais plus ce que veut dire ce verset. « Réjouissez-vous toujours ». Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On a le droit d'être heureux. Amen. Vous êtes, non, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, j'ai de la joie à connaître Jésus-Christ. Il m'a tant fait pour moi, il me donne encore tant, et il me fait le privilège d'être à son service. Des fois, vous savez, on se plaint, oh, je fais le ménage à l'église. Oh, je prêche, je suis pasteur à plein temps et je dois supporter mon mauvais caractère, je dois supporter mes défauts et pourtant prêcher quand même. Des fois, il y a un combat qui est fait, mais quel privilège d'être au service de Dieu. Amen. Je sais que notre frère qui a présenté la Sainte Cène voit ça comme un privilège, même s'il le fait en toute humilité, et etc. Tous les services, on le fait avec de l'humilité, mais c'est une grande joie, je l'espère en tout cas. Jésus va dire, ce que vous faites, faites-le avec joie, en tout cas dans les épîtres, que tout ce que vous fassiez, vous le fassiez avec joie. Luc chapitre 10, verset 20, Jésus apporte une précision qu'on a vue la semaine dernière. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » La plus grande raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir, c'est que nos noms sont écrits, sont inscrits dans les cieux. Amen. Non ? On continue. Il apporte aussi encore une précision dans le livre des psaumes, juste. « Réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges, quoi ? Sa sainteté. » Au chapitre 97, verset 12. Célébrez, réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez sa sainteté. Est-ce que sa sainteté est un sujet de joie pour vous ou bien de peur et de crainte et de tremblement, tout simplement? Je crois que c'est un sujet de joie aussi. Il est saint et heureusement parce que le ciel va être un lieu saint. Plus de péché, plus d'injustice, plus de mensonges, plus tout cela. Ce sera un lieu de sainteté et même si je ne mérite pas d'y aller, Jésus a été saint. Pour moi, il s'est donné, il s'est offert en sacrifice. Et par son sang, je suis lavé, purifié de tous mes péchés. Un autre texte, dans Psaume chapitre 32, verset 11, je le lis juste. « Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. » Ça, c'est super, mais la suite. « Vous tous qui êtes droits de cœur. » Une des conditions pour que nous puissions nous réjouir, d'une manière même au point de pousser des cris de joie, peut-être, c'est qu'on soit droit de cœur. Très important. On a le droit de se réjouir, mais Dieu nous rappelle, soyez droit de cœur. Aimez marcher dans la droiture, aimez marcher dans la justice, aimez marcher dans la volonté de Dieu. Et à parler souvent avec Monsieur Go, et surtout par rapport à la musique, à tant de choses, il m'a bien fait comprendre que ce n'est pas le fait de se réjouir qui le dérange, ce n'est pas le fait de taper des mains en soi qui le dérange. Mais c'est le fait que tant de personnes le font sans considérer l'obéissance que l'on doit à Dieu et la droiture de cœur que l'on doit avoir. Il est dit un peu plus tard, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » C'est dit aussi. Se réjouir, ça ne veut pas dire s'exciter, faire toutes sortes de choses. Le monde se réjouit d'une manière tordue. Le monde se réjouit d'une manière qu'on ne doit pas imiter. Le monde se réjouit d'une manière qu'on est censé avoir abandonnée. Il y a une manière saine de se réjouir. Mais je crois qu'il faut le faire avec simplicité. Il faut le faire avec simplicité quand même. Mais avec cette arrière-pensée quand même, en gardant en pensée que c'est devant Dieu qu'on se réjouit. Et si David s'est réjoui à danser devant l'Éternel, il n'a jamais oublié que c'était devant l'Éternel qu'il l'a fait. Il n'a pas fait pour s'exciter, pour faire toutes sortes de choses, ou pour satisfaire sa chair. Il l'a fait devant l'Éternel, d'une manière, il me semble, spirituelle. Première chose, réjouissez-vous. On a le droit de se réjouir. Être chrétien, ce n'est pas être triste. Être chrétien, c'est avoir une joie qui demeure malgré tout, malgré toutes les circonstances, mais devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Les plus heureux sont ceux qui marchent dans les voies de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils se loupent, ils se manquent, ils tombent, ils demandent pardon, et ils reprennent la marche. Dernièrement, je ne vous dirai pas quoi, mais j'ai eu quelque chose qui m'a fait honte. Je me suis fait honte tout seul. Et je me suis trouvé dans cette position, qu'est-ce que tu fais? Tu restes par terre, tu restes à t'apitoyer sur ton sort? Ou tu crois que Jésus a payé pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses venir devant Dieu sans honte? Et j'ai cru, j'ai dit à nouveau, Seigneur, je me place devant toi. Et je crois que tu me laves de tout ce qui pourrait m'avoir souillé. Et tu me relèves. Amen. Et j'abandonne ce qui pourrait être une occasion de chute, j'abandonne ce qui pourrait être mauvais pour moi. Si on se réjouit devant Dieu, c'est pas qu'on est parfait. Non. Il n'y a pas à attendre d'être parfait pour se réjouir devant Dieu. Il y a simplement à se souvenir que Jésus a tout fait pour que nous soyons rachetés, sauvés, par grâce, par le moyen de la foi. Deuxièmement, soyez patients dans l'affliction. Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais vite. C'est vrai. On veut apprendre la patience, mais on veut vite l'apprendre. C'est vrai. Hein? Le Seigneur nous dit, je vais t'apprendre. Il nous a laissé des textes. Il nous a laissé sa parole pour être encouragé à devenir de plus en plus patient et à savoir comment réagir, comment agir, comment traverser certaines choses. L'exemple le meilleur dans la Bible quant à la patience, c'est Jésus. On est d'accord. Mais le deuxième exemple, le meilleur, c'est Moïse. Il est dit qu'il était l'homme le plus patient de toute la terre. C'est écrit dans Nombre chapitre 12 verset 3. Et quand on regarde la charge qu'il avait comme travail, des millions, il avait au moins 1 million de personnes à gérer. Nous, on a 400 personnes à peu près à gérer dans l'église. C'est déjà un travail, vous voyez. Mais lui, il avait plus d'un million quand on fait le compte. Des gens qui se moquaient de lui, des gens qui voulaient le tuer, des gens qui le critiquaient, des gens qui rejetaient son Dieu, celui au nom duquel il venait vers eux, alors qu'il est venu comme un sauveur, un type de Christ, qu'il a donné sa vie à 80 ans, il s'est relevé, il est retourné là-bas, il a libéré le peuple, il a participé à la libération du peuple, il s'est tenu devant Pharaon, il a lui-même passé, il est passé à côté de la mort, il a eu du courage pour faire tout ça pour son peuple, qu'il aimait. D'ailleurs, il a commencé à 40 ans à vouloir le délivrer, à vouloir régler certaines choses. Il a passé 40 ans lui-même dans le désert. Il va les sauver, il repasse encore 40 ans à cause du peuple dans le désert. Lui, il n'a rien fait, ce n'est pas sa faute. Et il meurt, il est même privé, il est privé de la suite parce qu'à un moment, il a manqué de patience. Pourtant, c'est l'homme le plus patient de la terre. Et quand on regarde un petit peu toute son histoire, c'est un grand exemple pour nous. Mais Jacques va nous parler aussi dans l'Épître. Il va dire, Jacques 1, chapitre 1, verset 2, « Mes frères ou mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Quelquefois, on se demande pourquoi il nous arrive telle ou telle chose, pourquoi on traverse telle ou telle épreuve. Eh bien, Jacques nous donne une des raisons, c'est que Dieu veut nous apprendre la patience. Qui a déjà prié pour apprendre la patience? Moi, j'ai déjà prié. Eh bien, vous avez prié pour avoir des épreuves. Non, c'est pas comme ça. Mais Dieu utilise ce moyen-là, en tout cas, pour nous faire grandir dans la patience. Et qu'est-ce qu'elle fait, la patience? Pourquoi Dieu, pourquoi les apôtres nous exhortent tant à grandir en patience? Parce que la patience, lorsqu'elle produit toute son œuvre, eh bien, elle nous rend parfaits, elle nous rend accomplis, sans faillir en rien. Elle nous apprend à supporter les épreuves, à supporter notre propre caractère, à supporter le caractère des autres, à supporter le temps qui passe. Parce que pour être patient, ça veut dire qu'il y a un temps qui passe. Et bien, le temps qui dure, la vie, des fois elle paraît longue pour certains. Je visite certains d'entre vous et avec votre âge, vous me dites « Dieu m'a oublié. Je voudrais qu'il vienne me chercher, qu'est-ce qu'il attend ?» Et on ne comprend pas toujours. Mais le Seigneur, s'il nous laisse sur la terre, c'est pour un but. De toute façon, il y a un but pour toute chose. On serait mieux là-haut, ça c'est sûr. S'il nous laisse sur la terre, c'est pour qu'on prie, pour qu'on soit les témoins du Seigneur Jésus-Christ, entre autres. Et la patience accomplit quelque chose de merveilleux en nous. Il nous donne de ne pas tomber. Elle nous donne de ne pas tomber facilement. Elle nous donne d'arriver jusqu'au bout. On a besoin d'apprendre la patience. Vous savez, un enfant, comment il fait? Un enfant, il insiste, il veut, il demande. Et nous, notre rôle en tant que parents, vous le vivez comme moi, c'est de leur apprendre des fois à attendre. On a eu le malheur de parler de Noël aux enfants, de parler des cadeaux, on l'a énuméré comme ça, et puis tous les jours, vous entendez mon plus grand qui dit « Le cadeau c'est aujourd'hui, le cadeau c'est aujourd'hui !» Et là, je crois qu'on va passer un long moment à attendre. Et lui aussi. Voilà. Et il faudra lui apprendre que le vrai cadeau, c'est Jésus qui nous a été donné comme sauveur. Et qu'en vrai, le seul pour qui on fête son anniversaire, c'est lui qui n'a pas de cadeau. À moins qu'on lui donne notre vie, et encore on ne lui fait pas un cadeau. Parce que quand on lui donne notre vie, elle est avec toute sa misère, tout son péché, et c'est pour qu'il la lave. Ouais. Pensons à cela. Jacques 5, verset 11. « Voici, nous disions, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job, troisième exemple. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Qui l'eût cru que la fin de Job serait comme elle l'a été? Quand on commence, merveilleux, il est béni, il est riche, il est obéissant, tout ça. Je lisais le chapitre 29 de Job et je comptais partager là-dessus aujourd'hui et je me demandais où était son secret. Où était son secret? Comment ça se faisait qu'il arrivait à être un exemple sans la Bible, sans Abraham, sans Moïse, puisque le livre de Job, c'est l'histoire de Job, c'est l'histoire la plus ancienne de toute la Bible. chronologiquement parlant, il y a la création, et après il y a Job. Il y a peut-être, il y a le déluge, bien sûr, et il y a Job. Job, c'est une des histoires les plus anciennes de la Bible. C'est le livre le plus ancien de la Bible. Et quand on voit tout ça, il a quand même tenu. J'ai trouvé certaines choses, mais ce qu'on peut remarquer, je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est qu'il a été patient. Pourtant, il s'est plaint. On ne peut pas dire qu'il ne s'est pas plaint. Il a dit « je ne comprends pas ». Et il a dit « pourquoi ?». Il l'a dit « pourquoi ?». Des fois, on dit « faut pas dire pourquoi ». Mais lui, il l'a dit. Il l'a dit. Et il n'a péché en rien. Puisque Dieu conclut en disant « Job n'a péché en rien, allez vers lui pour qu'il prie pour vous ». Ça, il dit ça aux amis qui ont voulu être de bons conseillers. Job, à un moment, il comprend rien du tout, il repasse en choses, il dit « mais comment ça se fait, etc. »« Dieu m'a abandonné », il dit toutes sortes de choses, mais il ne pêche pas. Et la fin, malgré tout, il n'a pas renié le nom du Seigneur. Sa femme lui a dit « maudit Dieu et meurt ». Quel encouragement. Ça, c'est de l'aide. Et pourtant, il a tenu jusqu'au bout, il a persévéré, il a dit « je comprends pas, ça me paraît injuste, mais voilà, Dieu est fidèle ». Et à la fin, il dira « mon œil t'a vu, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu ». Et dit, je me regarde comme misérable, j'ai en horreur mon moi. Avant, il disait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, il dit, je mets en horreur. Il conclut comme ça. Je te connais maintenant et c'est moi que j'ai en horreur. Je me regarde plus comme avant. Et ça me fait penser, j'en profite pour, parce qu'elle n'est pas là, mais peut-être à notre sœur Claudine Régnier. Vous avez tant d'attentes. Et pourquoi ? Serait-ce pas quelqu'un comme Job ? Que Dieu veut utiliser comme témoin pour montrer que même si on n'est pas béni comme on le voudrait, même si sur le moment on ne voit pas à quoi ça sert, ben Dieu est fidèle. Et qu'importe ce par quoi on passe, Dieu a un but derrière. Et il est miséricordieux, il fait miséricorde et il a de la compassion pour elle aussi. Ne nous jugeons pas les uns les autres, mais supportons-nous, c'est-à-dire mettons-nous les uns les autres sur les épaules les uns des autres. Troisième chose, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière ne veut pas dire multiplier les paroles. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit ? Prenons-le. Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu 6, 7. Je vous le lis si vous ne l'avez pas encore trouvé. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc persévérer dans la prière, ça ne veut pas dire répéter les paroles. Mon fils, quand il veut quelque chose, il dit « s'il te plaît, 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 s'il te plaît ». Et ça ne marche pas. Moi-même, quand on passait devant un fast-food qu'on aimait tant avec ma sœur, dans la voiture, on disait « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Ça a marché une fois, la deuxième fois, ça a fini par une correction. Pour apprendre la patience et le silence. C'est pas ça. Dieu ne dit pas « multiplier les paroles, ça va y arriver ». Non, non, non. Persévérer dans la prière, ce n'est pas ça. Vous savez, autrefois, il y avait des moulins à prière. C'est comme si on enregistrait notre prière sur un magnétophone et qu'on le faisait tourner en boucle pour être sûr que Dieu entende. Ça ne sert à rien. Il suffit de présenter à Dieu mon besoin. Je le présente et je reçois sa paix parce que je sais qu'il entend. Un pasteur a dit ceci un jour, alors que c'était une réunion de prière et que la sœur tardait, je n'approuve pas ce qu'il a dit. Il a dit, pendant que la sœur termine de faire le tour du monde avec sa prière, nous allons entonner un cantique. Ça m'a été rapporté pour m'apprendre à ne pas prier longuement. Mon père m'a dit ceci, Jérémie, apprends à être concis dans tes prières, parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Et puis tu n'es pas le seul à prier. Il m'a dit, tu sais, au début, on prie avec toi. Après, on prie pour toi. Et puis on finit par prier contre toi. Ça, c'est pas biblique, hein. Prier contre, ce n'est pas biblique. On prie pour. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais simplement, pour nous faire comprendre que persévérer dans la prière, ce n'est pas répéter. Il y a quelque chose de très mal compris. La veuve et le juge inique. Et il est écrit que la veuve casse la tête au juge inique. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit casser la tête à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un juge inique. C'est l'opposition, ce texte nous parle de l'opposition entre notre humanité. Nous sommes des pères humains, on donne de bonnes choses à nos enfants malgré le fait qu'on ait des pères, quelquefois, qui ne savons pas trop comment l'être. Et la divinité, la sainteté, le fait que Dieu est parfait. Et on n'a pas à casser la tête à Dieu. Et il est parlé de justice et du Saint-Esprit. Et je crois qu'en restant dans ce cadre, ça nous ramène à comprendre que Dieu ne veut pas qu'on lui casse la tête, mais simplement qu'on lui présente nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, afin de recevoir la paix qu'il a promis à ceux qui lui font confiance. Alors pourquoi prier souvent? Pourquoi prier beaucoup? Et quand puis-je prier? Premièrement, pourquoi souvent prier? Et pourquoi beaucoup prier? Ben, si Jésus a dû prier autant que ce que ça me l'ait rapporté, c'est que moi j'en ai encore plus besoin. Jésus lui priait parfaitement. Jésus priait et il était toujours exaucé. Pourtant, il est écrit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. » Et je crois que ce n'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé beaucoup de fois. Jésus a été un homme de prière. Il s'est fait homme et il a été un homme de prière. Et selon son exemple, la Bible m'encourage à prier. Avons-nous ce cœur, cette envie, cette soif de prier? C'est pas toujours facile. Plus on travaille ce muscle, plus il va être facile de prier. Je me répète, plus on prie, plus ça va être facile de prier. Parce que c'est comme une habitude, un rite, une discipline que l'on apprend. Et si je ne prie jamais, les 5 minutes que je vais prier vont me paraître longues et difficiles. Mais si j'apprends à prier, que je pratique la prière, que je m'attends à Dieu, que je me dispose, à quoi sert la prière sinon à se placer devant Dieu pour chercher sa volonté? Pas pour lui imposer des choses, mais simplement chercher sa volonté en lui faisant connaître nos besoins. Voilà mon besoin. Je reste à ta disposition pour savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux me donner, à quoi je dois m'attendre dans ce besoin. Seigneur, je reçois ta paix parce que quand tu as entendu mon besoin, eh bien je sais que tu t'occupes de moi. Jésus a beaucoup prié, et moi, encore plus que Jésus, je dois le faire. Beaucoup, eh bien parce qu'il y a des sujets infinis. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on ne sait pas pourquoi prier. Il faut juste ouvrir les yeux. Lire la parole, il y a plein de choses pour lesquelles il est écrit qu'on devait prier. Mais en même temps, ouvrir les yeux sur la famille de Dieu. Nous-mêmes, peut-être qu'on a besoin de rien. Merci Seigneur. Nous-mêmes, peut-être qu'on a la santé. Gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres dans la famille de Dieu qui ont besoin de santé, qui ont besoin de nos prières, ne serait-ce que pour être soutenus dans leur foi. Je vois Marie Coupeau, qui est parmi nous, notre sœur, qui a fait l'AVC un peu après Monsieur Gault, qui a été bloquée à la maison pendant un long moment et qui vient en voiture toute seule aux réunions. Même si c'est encore difficile. Elle est courageuse. N'a-t-elle pas besoin encore de nos prières? Et je sais qu'elle prie pour nous. Je suis dans les confidences. Vous comprenez? On a divers sujets. Et plus je vais venir aux réunions, plus je vais essayer en tout cas d'avoir des nouvelles, plus je vais pouvoir prier et avoir des sujets de prière. Je vous en donne quelques-uns. Je les ai notés pour le pardon des péchés, de nos péchés. Prier pour la guérison des malades, prier pour la délivrance des tourmentés, pour une direction de Dieu, pour le secours de Dieu, pour sa providence, pour connaître sa volonté, pour Israël, pour les autorités, pour les pasteurs. Vous priez pour les pasteurs. Pour votre couple ou votre futur mariage, pour bien choisir. Pour vos enfants, pour les persécutés, pour les perdus, pour le local, pour le camp, pour Janson, pour les familles en deuil, telle Madame Régnier ou Monsieur Gault ou d'autres. La Bible va dire, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:17, « Priez sans cesse ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une question de position, vous le savez, hein, on le répète assez souvent, mais c'est pas une question de position, c'est pas une question d'endroit, c'est une question d'état d'esprit, d'état de cœur. Prier sans cesse, c'est chercher à être en communion avec le Seigneur. Prier sans cesse aussi, c'est prier en toutes circonstances, les favorables comme les défavorables. Quand je vois une sortie, une issue, mais comme quand je n'en vois plus. Même si on ne voit pas comment Dieu pourrait faire, Dieu peut faire encore quelque chose. Et je peux m'attendre à lui. Humainement, il n'y a plus de solution, mais je connais un Dieu qui est au-dessus de tout. On a chanté El Shaddai, on le traduit par Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant qui peut tout faire, on peut s'attendre à lui. Dans toutes les circonstances, s'il a pu ressusciter un mort, et pas qu'un, ne peut-il pas encore agir dans le moindre de nos besoins? Je le crois. Amen. Croyons-nous encore à la guérison? Prions aussi pour cela. Et ce n'est pas parce qu'on a eu des échecs apparents ou bien des déceptions qu'on doit se décourager. Au contraire, Dieu nous apprend par la persévérance. Et dernière raison, pour être entendu. Il est écrit dans Jacques aussi, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. On va voir 3 leçons aussi, puisqu'on a vu les 3 choses. On a détaillé, maintenant on va voir l'ensemble. Je tire trois leçons, je vais essayer d'être court. Trois leçons sur ce texte, sur ce verset que l'on a lu, on le relit. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Trois leçons que je tire de cette chose. Il y a une notion de durée et de fidélité. Réjouissez-vous en espérance, ça parle de quelque chose que je n'ai pas encore, mais que j'aurai dans le futur. L'espérance parle d'avenir, puisque ce que l'on espère, on ne le voit pas encore et on ne l'a pas encore reçu. Quand j'ai quelque chose, je ne l'espère plus, je l'ai. C'est écrit clairement dans Hébreux chapitre 13, verset 1 pour ceux qui prennent des notes, ou Romains 8, 25 plutôt en premier. Si nous espérons ce que nous voyons, nous ne voyons pas, pardon, nous l'attendons avec persévérance. Un peu après, il est dit dans quoi aussi nous devons persévérer. Il est dit persévérer dans l'amour fraternel, par exemple. Et on pourrait prendre, j'aurais pu prendre toutes sortes de versets de textes qui nous parlent de la persévérance. La première leçon que je tire, c'est réjouissez-vous en espérance, soyez patients, qui nous parle aussi de durée, et persévérez. Persévérer, ça veut dire qu'il y a encore une durée aux choses. Ça demande de ma part une fidélité, une foi, une constance. Pour arriver jusqu'au bout, pour obtenir peut-être une promesse ou quelque chose que j'attends. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Jésus n'est pas revenu encore, vous êtes d'accord avec moi ?« Mais il use de patience envers vous et envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il veut qu'il y en ait encore d'autres qui rentrent dans le ciel. Sinon, il serait revenu. Il n'est pas là juste pour qu'on soit tenté. Il ne nous laisse pas comme cela où il ne nous a pas oubliés. Jésus veut qu'on persévère et il tarde à venir, comme on pourrait l'exprimer, parce qu'il veut que tous soient sauvés, qu'un maximum soit sauvé. Et nous, si nous sommes sur la terre, nous devons avoir le même but. Le même but. Eh bien, parler, communiquer ce que nous avons reçu nous-mêmes. Dans Matthieu 24, 13, Jésus nous encourage en disant « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il est une question de durée. On est sauvé en espérance, parce qu'on est encore en danger sur la terre, à nous de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation et perdre ce que Jésus nous a donné. Vous pouvez dire à quelqu'un autour de vous, à côté de vous, « Si tu attends le Seigneur, tu es courageux. » Si tu attends le Seigneur, tu es courageux. Parce qu'il faut du courage pour persévérer. Et je salue le courage des anciens, des personnes qui sont dans l'Église, des personnes qui gardent leur foi, qui entretiennent leur foi avec Jésus depuis des années. Ça se voit peut-être pas, vous faites pas des choses remarquables, vous faites pas des choses que l'on peut discerner physiquement, mais Dieu le voit. Et rien que le fait d'être là depuis des années, c'est par la grâce de Dieu, certes. Mais c'est un courage. Vous avez relevé le défi qu'il est lancé à ceux qui sont au Seigneur, celui de persévérer, celui de continuer. Vous avez sûrement traversé beaucoup d'épreuves, mais vous avez tenu bon, par la grâce de Dieu. Mais vous avez eu sûrement le bon réflexe. Vous avez prié pour tenir bon. Vous avez lu la parole de Dieu pour que votre foi soit fortifiée, encouragée à chaque fois. Vous avez cherché la présence de Dieu et l'onction du Saint-Esprit pour avoir une parole à propos au moment opportun, afin de tenir bon. Et sûrement que vous avez prié aussi pour ceux qui étaient dans la difficulté. Si Sainte-Agne est encore debout aujourd'hui, c'est parce que certains ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de division. C'est parce que des pasteurs vous ont enseigné. Et j'aimerais vraiment saluer chacun d'entre vous qui avez persévéré. Je suis jeune dans la foi. Je suis jeune dans le ministère. Je suis jeune, mais vraiment je suis touché par le témoignage que des personnes plus anciennes ont tenu jusqu'à moi pour que je puisse recevoir moi-même ce témoignage. Les apôtres ont commencé et tous les chrétiens ont continué jusqu'à aujourd'hui pour qu'on ait encore ce témoignage. Bien sûr que c'est Dieu qui veille sur sa parole, bien sûr qu'aucune parole ne passera. Mais quand même Dieu utilise des êtres humains, utilise ses enfants et même des fois des gens à leur insu pour que les choses se perpétuent et qu'il y ait encore ce témoignage. Si l'Église est ce qu'elle est, c'est parce que des gens ont pris au sérieux, des chrétiens ont pris au sérieux la parole de Dieu et l'ont simplement mise en pratique. Je voudrais à tous vous dire merci aussi pour votre persévérance. Ça, c'est la première leçon. Il y a une durée et il faut tenir dans la durée. On lisait encore hier aux obsèques, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Amen. j'ai achevé, j'ai continué, j'ai persévéré. Voilà, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Maturité, la deuxième leçon que je tire de ce texte. Je ne sais pas comment vous l'aurez écrit, vous. Heureusement qu'on nous donne pas, on nous a pas demandé notre avis, mais regardez. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Moi, j'aurais écrit, pardonnez-moi, hein, j'aurais écrit, priez, persévérez, priez. Comme ça, vous serez délivrés dans votre affliction et vous pourrez vous réjouir de ce que vous aurez reçu. Moi, j'aurais écrit comme ça, oui. J'aurais pris cet ordre-là. Je vous dis, écoutez, persévérez, priez, priez, vous verrez, vous serez délivrés, Dieu entendra vos cris et vous pourrez enfin vous réjouir. Mais l'apôtre Paul, il prend l'ordre inverse. Est-ce qu'il l'a remarqué? Est-ce que c'est à son insu par le Saint-Esprit? En tout cas, il a commencé par dire aux chrétiens, réjouissez-vous. Et moi, j'aurais dit, mais attends, je suis dans l'affliction. Attends, je suis en train de prier, j'ai pas encore obtenu. C'est après qu'on se réjouit. Non! Réjouis-toi, et t'as des sujets de te réjouir. Et là, il est question de maturité spirituelle. On n'est pas heureux en Jésus-Christ parce qu'on est béni. On est heureux, on se réjouit en Jésus-Christ, déjà parce qu'on est sauvé. On a déjà toute la raison d'être heureux. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que je sais que je suis sauvé. Et malgré toutes les afflictions de la terre, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les prières qui n'ont pas encore été exaucées et qui ne seront peut-être jamais, exaucées, c'est-à-dire que j'ai ce que je demande, parce que des fois on demande mal, ou on demande sans savoir ce que Dieu veut, et on a le droit de demander, on fait connaître nos besoins à Dieu, on demande, bien sûr. Mais il y a bien des personnes qui ont demandé à être délivrées des lions qui étaient dans les arènes. Il écrit que c'est les héros de la foi. Ils n'ont pas obtenu les promesses, mais ils ont non, des biens meilleurs, ils ont un trésor bien meilleur dans le ciel. Jésus voulait eh bien, que ça se passe comme ça. Dieu voulait que ça se passe comme ça parce qu'il y avait quelque chose de meilleur pour eux et un témoignage pour nous. Et je suis sûr que, et on en a même d'ailleurs le témoignage, de personnes qui se sont converties en voyant des chrétiens se faire manger. Ils ont dit, tiens, ils se font manger différemment des autres. Je ne sais pas comment on l'aurait pris, mais ça les a marqués, la paix qu'ils avaient pendant qu'ils se faisaient manger. Des fois, on croit qu'être avec Dieu, c'est tout rose, un long tapis rouge déroulé devant moi, mais quelquefois, Dieu permet certaines épreuves. Et Dieu est quand même juste. Et si je me réjouis, ce n'est pas parce que j'ai été exaucé, c'est pas parce que je suis riche, c'est pas parce que j'ai une belle maison, un travail avec un beau salaire, plein d'enfants et que tout va bien. Si je suis heureux, c'est parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je l'ai accepté, je l'ai reçu comme sauveur et comme Seigneur dans ma vie et je lui obéis. Et qu'il approuve ma vie. Je sais que ma vie est approuvée de lui. Est-ce que votre vie est approuvée de Dieu? Grande question. Une maturité spirituelle. Philippiens 4, versets 11 et 13. Réjouis-toi, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, c'est Paul qui parle. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, mais à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, c'est vrai, c'est une question de maturité, je crois. Paul était mature. Moi, j'ai besoin de faire de grands, grands progrès. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai besoin. À apprendre à être content dans l'état où je me trouve. Et je réalise que des fois, je ne me contente pas de ce que j'ai. Je veux plus. Ah, si j'avais plus, etc. En espérance, nous parle de ce que j'attends, et ce que j'attends, c'est le ciel et la félicité. Quelqu'un va dire les vacances éternelles. Le mot vacances, c'est un temps de repos légal pour les salariés. C'est ça la définition. Une des définitions. Un temps de repos légal pour les salariés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire des justes, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On peut le dire comme ça. Tout travail mérite son salaire. Quel travail on a fait? Ben, croire. Croire. Et on obtient le ciel. Et encore, il y a des récompenses en fonction de la manière dont on travaille sur la terre. Travaillez à votre salut. Ne pas le mériter, mais gardez-le. Gardez-le. Et vous aurez même en plus des récompenses. Même si tu sais qu'il faudra supporter les épreuves. Maturité. Réjouis-toi même si tu sais qu'il y aura des afflictions. Réjouis-toi que tu sois exaucé ou pas, avant même d'avoir reçu aucune réponse. Et troisième leçon, je termine. La leçon que je tire, peut-être la première que j'avais remarquée, c'est que tout est grâce. Ce verset nous dit que tout est grâce. Je n'espère pas parce que j'ai prié ou parce que j'ai déjà vu du secours quelque part, j'ai déjà fait plein d'expériences avec Dieu. Je n'espère pas et je ne me réjouis pas parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps exaucé à mes prières ou quelqu'un qui a été délivré de plein d'afflictions. Quelquefois, on se fait un orgueil d'avoir vécu des choses avec Dieu. C'est pas vrai? Quelquefois, on est tellement fier d'avoir été exaucé dans nos prières. Moi, j'ai prié, j'ai jeûné tant de jours. Et alors? Ça, c'est devant Dieu. Mais est-ce qu'on mérite quoi que ce soit malgré un jeûne de 21 jours, de 30 jours, de 40, 50? Ne faites jamais jeûner vos enfants pour espérer mériter quelque chose comme cela. Je crois qu'un jeûne, c'est pour se tenir devant la face de Dieu, on doit le faire personnellement. En plus, si on dit aux autres de jeûner sans qu'ils soient convaincus, ça va servir à rien du tout. Donc veillons, il y a des gens fous qui ont fait jeûner les enfants, les bébés, et les bébés sont morts. La preuve que ce n'est pas de Dieu, je tiens à le dire. Une question de grâce. Si je sais, si j'ai cet espoir dans mon cœur, c'est avant même d'avoir été libéré d'une affliction et avant moi même d'avoir été exaucé dans mes prières. Je sais que je suis sauvé parce que Jésus a payé le prix pour mes péchés. Je suis sauvé sans la loi. Et qu'il est difficile des fois de ne pas revenir à une sorte de mérite, à une sorte de loi. Pour être sauvé, il faut accomplir si et ça. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés, croire que son sang nous lave de tout péché et l'accepter comme Seigneur pour garder ce salut. Du moment que je demande pardon pour mes péchés, du moment que je confesse que je suis pécheur et que je crie à Jésus pour être secouru, j'obtiens le salut. Comme ce brigand sur la croix, il n'a rien fait d'autre. Mais si je demeure sur cette terre, il me faut bien sûr persévérer dans cette foi qui produit des œuvres en moi afin de garder le salut. Mais je suis sauvé sans l'accomplissement de la loi. Et je suis sauvé par grâce, pas par la loi, pas par les mérites. Tout est grâce. Tout commence par l'espérance reçue en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et au travers de sa vie reçue qui demeure en moi. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Et je reviens, selon sa volonté, juste au-dessus c'est écrit, selon sa volonté. À l'exemple de Jésus qui a été exaucé, mais qui a quand même dit, non pas ma volonté mais la tienne. Et Dieu l'a exaucé. Dernièrement, quelqu'un me disait, oui, j'ai lu un livre où il était dit de ne pas dire que ta volonté soit faite. La personne, un pasteur, rendait son témoignage, soi-disant, et il disait, voilà, un jour j'ai demandé quelque chose à Dieu, et j'ai dit, Seigneur, mais selon ta volonté. Et je n'ai pas été exaucé, je me demandais pourquoi. Et Dieu m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise selon ta volonté, il fallait que j'aie la foi, il fallait que je dise à Dieu, sauve-moi, donne-moi ce que je te demande. C'est pas ça. Et quelqu'un me disait, mais je suis peiné parce que moi j'ai lu ça, et je me suis dit, c'est vrai, c'est la foi ça. Mais c'est pas la foi. La foi, Jésus, il l'avait plus que nous. Et il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a été exaucé. C'est dit juste après, puisque des anges sont venus à son secours, et c'est répété dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. Donc vraiment, croyons que tout est grâce. On a juste à s'en remettre à la volonté de Dieu, à lui faire confiance. Et le Seigneur, eh bien, nous conduira là où il a prévu de nous conduire, ce qui sera bon pour nous, mais aussi bon peut-être pour quelqu'un d'autre, en nous voyant traverser l'épreuve d'une bonne manière, dans la foi, dans la paix que Jésus donne. Trois leçons, trois choses. La durée, une fidélité, une maturité, et puis qu'on se souvienne que tout est grâce, je ne mérite rien. Amen. Merci Père. Par ce simple verset, de nous apprendre et de nous rappeler de simples vérités, Seigneur. Aide-nous à être selon ta volonté, à avoir un cœur droit, à vouloir marcher, Seigneur, dans tes voies, s'il te plaît. Nous sommes heureux de pouvoir nous réjouir devant toi et nous chanterons, Seigneur, ce chant qui nous rappelle que tu nous demandes aussi de participer, de recevoir cette joie par le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta vie, du Saint-Esprit, baptise-nous dans le Saint-Esprit, afin que nous jouissions de tout ce que tu as prévu pour nous, et que lorsque l'épreuve viendra, nous demeurions dans cette espérance, qu'elle nous aide à être patients dans l'épreuve et que nous soyons fervents et confiants lorsque nous te prierons, sachant que tu entends nos paroles, tu entends nos prières, tu sais même ce que nous allons te dire avant que nous le formulions et que tu exauces selon ta volonté toutes nos prières et surtout que tu réponds aux prières, que ton nom soit béni en toutes choses. Aide-nous à méditer encore ce verset, à nous souvenir, à découvrir encore d'autres choses que tu nous montreras par l'Esprit Saint, mais que tous nous soyons unis selon ta parole pour t'obéir et t'être fidèles. Que ton nom soit béni. Amen.